bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h.
Du nouvel embirement. En France, 7 migrants qui tentaient de traverser la Manche ont été secourus ce matin au large du Pas-de-Calais, au large du Cap-Grinet. C'est un patrouilleur des douanes qui a récupéré leur embarcation semi-rigide. Ils ont été débarqués sains et saufs à Boulogne-sur-Mer. Pour avoir critiqué dans les médias le projet de réforme de l'éducation nationale, un directeur de l'école, d'une école de l'ODEV dans l'Hérault a été sanctionné. C'est chez nos confrères de France Bleu, en l'occurrence en mars dernier, que Sébastien Rome s'était exprimé. Il venait de signé un appel aux sénateurs dans Le Monde pour s'opposer au projet de loi pour une école de la confiance de Jean-Michel Blanquer. Il a reçu depuis une lettre d'admonestation de l'inspection académique. Pour son avocat, il s'agit bien là d'une sanction déguisée puisque le courrier va être versé à son dossier administratif et il demande aujourd'hui eh bien, tout simplement que ce courrier disparaisse. Sébastien Rome veut également saisir le défenseur des droits. L'allocation adulte handicapé sera revalorisée en novembre, plus 40 euros, annonce de Sophie Cluzel aujourd'hui dans le Parisien aujourd'hui en France. Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Vous écoutez France Inter, il est 11h03.
France Inter aime le festival We Love Green, le week-end des 1er et 2 juin. La musique se met au vert avec Tame Impala, Christine and the Queens, Booba, Metronomy, Erika Badu, Laurent Garnier, Rosalia, Sébastien, Calypso Rose, Courtney Barnett, Vald, Flavien Berger. Plus de 50 concerts et DJ sets, des conférences, des films, des expositions, mais aussi de la gastronomie au cœur du bois de Vincennes. We Love Green, un festival France Inter.
C'est la bande originale.
Oh, c'est malin. Georges, j'ai pas peur, ok? Je vous entends très bien. Merci Laetitia Gaillet. Elle sera de retour à midi pour d'autres infos.
Pas mieux, ben, vraiment.
On
est que mardi, les gars.
Déjà?
Ouais.
Non. Vivement le week-end demain.
Ça veut dire que je serai toute seule pour lancer
mais
la bande originale
demain.
Pas du tout, pas
là.
Du tout. Nous sommes là demain en direct avec Bruno Solo. Bruno Solo, oui.
Ah d'accord, ok.
Absolument.
Il ouais, pas
encore.
Comment ça encore? Soyez polis.
En attendant aujourd'hui. Vous faites quelque chose? Je sais pas.
Oui, on va faire un truc.
On est en direct.
On va occuper l'antenne jusqu'à midi et vous revenez à midi. On fait ça?
D'accord, ok, ça marche. À tout à l'heure.
Avec Léna Cadeau-Boudadi.
Bonjour à tous.
Agnès sur Stéphane. Albert Algou.
Bonjour.
Daniel Morin.
Bonjour Agnès.
Tanguy Fessureau sera là tout à l'heure. Et nos invités, Nicole Calfon et Jean-Luc Moreau.
Bravo, bravo.
Jean-Luc. Nicole. On est d'accord, Jean-Luc, quand on a dit qu'on recevait Bruno Solo demain, le encore venait de votre, de vos cordes vocales.
Pas du tout.
Si, si, assumé.
Non, c'était Agnès.
C'est Agnès. J'étais entendu dire, on va encore recevoir Bruno Solo.
Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Il faut toujours se méfier de ses amis, puisque visiblement vous êtes amis, Bruno Solo.
Ah, depuis très longtemps.
Ouais, oui. Voilà, il faut s'en méfier. Nicole Calfon et Jean-Luc Moreau, on est ravis de vous accueillir. Vous êtes au Théâtre du Montparnasse tous les soirs, du mardi au samedi, avec Nicolas Moreau, Nel Darmouni, Tristan Robin et Stéphane Vojtovic. J'espère que j'ai bien descendu l'escalier. De ces deux mensonges et une vérité, une pièce à pleurer de rire, à pleurer de rire, que vous mettez en scène, Jean-Luc. D'ailleurs, vous l'avez mise en scène avec une première distribution.
Oui, et avec, là maintenant vous... avec Lionel Assier, Frédéric Bourali et puis...
une bande de potes.
Raphaëline Goupillot.
Ils ont joué la pièce... Moi, je suis généreux, je cite celle qui joue avant vous.
Ils ont joué la pièce 300 fois et puis là, ils sont en tournée. Et comme ils
avec
sont,
la pièce.
Avec la pièce.
D'accord.
Alors, comment ils sont en tournée, la directrice Myriam de Colombie du Montparnasse m'a demandé, est-ce qu'on peut jouer la pièce? J'ai dit non, parce qu'ils sont en tournée. Alors elle m'a dit, tu vas la jouer.
Et voilà. Ah, il faut vous parler comme ça pour que vous disiez oui, en fait.
Oui.
Ah, il faut être autoritaire. Ouais. T'aimes ça.
J'aime ça.
Le pari est simple. C'est une histoire de couple, une histoire d'amour. Ils fêtent leurs 27 ans de vie commune, de mariage
c'est
et
beau.
De partage. Et justement, lui dit, c'est merveilleux. Oh. On est en parfaite osmose. Je sais très bien ce que tu vas dire. Tu es, non pas tu es, enfin si, il anticipe ce qu'elle va dire. Et le problème, c'est elle le vit comme tu es tellement prévisible, et donc moi, ce que je veux, c'est de la surprise, et je veux du rebondissement, et de la rive, l'idée de ce jeu de mensonges et une vérité. Ai-je bien résumé ?
C'est exactement
c'est
ça.
Très très bien. Hein.
C'est gênant tellement c'est bien ça, Nicolas.
On peut s'en aller.
Alors, pour faire encore plus simple,
vas-y.
Lui dit, la vie, quand elle est calme, elle était amoureuse et c'est tranquille, c'est bien. Et elle dit, moi, je ne veux que des, qu'une vie qui soit en dents de scie.
Avec des rebondissements, avec
c'est
des surprises.
Permanent.
Surprends-moi.
Et lui se voit retraité de l'amour, quand même.
Lui, il se voit en retraité de l'amour, mais la retraite, c'est ce après quoi tout le monde court, hein, quand même. Hein.
Alors justement, on va en parler. T'es sûr ? On va reparler évidemment de cette pièce au théâtre du Montparnasse que l'on a vue et qui est encore une fois extrêmement drôle. Mais d'abord des questions concernant Nicole Calfan et Jean-Luc Moreau. Où se sont mariés Nicole Calfan et Jean-Yann ?
Saint-Tropez.
À la mer.
Non. Alors quand je dis où, c'est pas l'adresse d'une ville, c'est dans quelle situation?
Dans une cave.
Las Vegas.
Non, mais c'est ça
un l'idée. Parking.
Sous.
Non,
le
mais
lieu
c'est
où
ça
la situation.
Dehors. Non. Le...
Dans une crypte.
Nicole Calfan n'a pas l'air de savoir.
Non.
À la maison.
Ce qui est bien, c'est que Nicole ne sait pas.
Hein. J'ai pas compris la question. Parce que je suis pas réveillée. Où on se trouve?
Vous êtes mariée.
Pour vous marier. Ne dites rien, Nicole. Après, vous me direz si c'est vrai ou faux.
Dans une cuisine.
Symboliquement, ils se sont mariés pas loin.
Dans une salle de bain, dans un salon, dans une salle à manger, dans un restaurant.
À la maison. Voilà, exactement. Vous êtes symboliquement mariés à la table d'un restaurant chinois.
À la route mandarine.
Alors pourquoi vous dites que vous savez pas de quoi je parle?
D'abord, j'ai pas compris. Je me suis dit, mais on n'a jamais été mariés. Donc j'ai cherché. Après, j'ai cru que vous parliez d'un voyage. Mais c'était pas dans la bonne question.
Non.
Et oui, en effet, on s'est mariés. Enfin, ça veut rien dire, hein.
Vous avez pris des touristes néerlandais
oui, voilà,
autour du tout.
C'était un mariage blanc.
Non, mais je trouve ça
chaud.
Je trouve ça rigolo.
Non, mais il est rigolo. Hein.
Je trouve ça rigolo de se dire comme ça à table.
Mais il y avait toute une cérémonie. Vous êtes trop jeune, vous n'avez pas connu ça. On pouvait vraiment se marier à la route mandarine. On nous mettait un costume.
Ah non, je savais pas. D'accord.
Ouais.
C'est où ça, la route mandarine?
Ça n'existe plus.
Ah. Mais c'est un restaurant parisien?
Oui, c'est en face de l'hôtel. Tu vois.
Non, mais peu importe. C'est un
Saint-Germain.
Un restaurant
c'était
chinois.
C'était un vrai
à Paris.
Restaurant chic. Fort cher, sûrement.
D'accord.
Très snob, sans doute. Et on pouvait se marier.
Mais je me suis mariée aussi, là. Je m'y suis mariée aussi.
Ah ben voilà.
Parce que c'est bête. D'un seul coup, ça m'a
ben voilà.
Mais c'est combien de fois
ce mais
ben voilà.
Vous avez
voilà.
Vu un truc ou quoi, les deux là?
Ok, c'est pas grave. Jean-Luc Moreau a été marqué par son professeur de français, Roger Vrigny.
Oui,
j'ai bien
bravo.
Dit. Écrivain, au point de lui dire un jour, plus tard, je serai dans le spectacle, ou bien je serai...
À votre place,
prof de français.
Non, chinois. Non, non.
Votre amant.
Non.
Voyou.
Pas loin.
Comédien.
Voleur.
Non.
Dealer.
Non.
Bah,
non.
En prison,
Voyageur.
Tu dis quoi?
En prison. Clochard.
Animateur télé.
Pas loin.
Écrivain.
Non. Un truc.
Dealer.
Je pense que même aujourd'hui, on pourrait même plus faire cette vanne tellement.
Dealer.
Voilà, c'est pas loin
voilà,
de ça.
Escroc.
Non.
Un truc sexuel, quoi.
Non, pas du
maître
tout.
Chanteur.
Pas du tout, mais un truc non. Choquant aujourd'hui
qui
avec l'actualité.
Aux vieilles dames.
Prêtre.
Non.
Un terroriste.
Pédophile.
Ouais, exactement. Un terroriste. Je serai plus tard, je serai dans le spectacle ou je serai terroriste.
Ouais.
Mais dans quel état vous étiez au moment de dire cette phrase à votre
corps
de
janvier? Non, mais c'est parce que j'ai toujours pensé qu'il y a des moments où quand les messages ne passent pas,
il faut choquer.
On est des fois contraints. Il y a des peuples, des moments historiques où les gens ont été amenés à avoir des attitudes qui étaient d'une extraordinaire violence parce que l'ensemble du monde ne voulait pas comprendre ce qui se passait. Et avec la Palestine, ça a été quand même... au démarrage, c'était comme ça. Il y a eu des actions terroristes parce qu'on ne voulait pas comprendre qu'il y avait un problème. Mm-hmm. Il a fallu qu'il y ait des actions terroristes. D'ailleurs, moi, à ce moment-là...
C'est-à-dire qu'on ne peut comprendre par moment un message qu'à travers la violence. Ouais. Ce qui est le discours de certaines personnes qui manifestent le samedi à Paris régulièrement.
C'était le discours de Mandela, hein, pardon.
Mais absolument.
C'est quand même passé, si on regarde vraiment le mouvement, ou alors tous les grands mouvements d'émancipation ou de demande d'égalité, c'est passé par des formes de violence. Et Mandela, on ne l'associe plus à ça, on le cite comme une figure tutélaire, on en fait limite Gandhi. C'était pas du tout le cas.
Absolument. J'ai relu récemment justement son parcours et c'est vrai que c'est exactement ce que tu dis. Et
les résistants étaient qualifiés terroristes.
Je pensais que ou bien je faisais un métier comme comédien qui est un métier qui ne sert à rien ou à tout le monde, mais qui n'est pas dangereux. Ou alors je faisais quelque chose qui vraiment donnait un sens à ma vie. Et à ce moment-là, j'aurais pu effectivement m'engager dans une activité.
Et pour quelle cause,
voilà. Ouais.
Oh ben, à ce moment-là, c'était dans les années 68, c'était, ça pouvait déjà pour la planète. J'ai toujours été sensible au fait qu'on était en train de s'auto-détruire.
Activiste à la Greenpeace voilà. Dans les années un peu
70.
Un peu rude, ouais.
Concernant maintenant Nicole Calfon, l'une des grandes erreurs professionnelles qu'elle a commises...
Ah, c'est de venir ici. C'est...
Non. Alors, la première.
Ah, la première
grande erreur qu'elle a commise.
Elle a refusé une entrée quelque part dans une compagnie. Elle a refusé un rôle, collaboration.
C'est ça, mais c'est pire.
À la Comédie Française.
Elle en est partie, exactement.
À la Comédie, ouais.
Avoir quitté la Comédie Française.
Non, parce que j'ai fait tellement d'erreurs que je cherchais parmi les erreurs, celles que j'avais pu faire, j'en ai quand même fait beaucoup. Oui, avoir quitté la Comédie Française, ça encore, ça arrive, ça nous est arrivé à tous les deux. Mais quitter la Comédie Française au moment où je devais jouer Ondine de Giraudoux, ouais. Ça je crois que c'est quand même une grosse erreur.
Et pourquoi ?
Parce que Jean-Yann, il avait envie que je rentre à la maison.
Vraiment ça, ouais. C'est par amour que vous avez quitté la Comédie Française ?
Un peu beaucoup, ouais.
Incroyable.
Ouais.
Est-ce que vous aimiez la Comédie Française ? C'était la notion de troupe, c'était la vie.
J'adorais. Si on me demandait d'y retourner demain, j'y retournerais. Mais jamais pu y retourner. J'ai adoré cette période. Je peux parler au nom de Jean-Luc aussi.
Bah eux, on était ensemble.
On était ensemble aux Français. On a connu une période magnifique avec des grands, grands, grands acteurs. Une des plus belles périodes, je crois, de la Comédie Française. Mais voilà, c'est une erreur. C'est une erreur.
Est-ce qu'à la Comédie Française, on peut l'avoir quittée et on peut être rappelé par elle ?
Oui, on peut, oui.
Moi, j'y suis pas arrivée.
C'est pas un au revoir définitif, en tout cas, quand on quitte.
Non, ça dépend
dans quelles conditions.
Voilà.
Si on casse la gueule à l'administrateur et qu'on part,
c'est plus compliqué.
C'est difficile de revenir.
Faut attendre qu'il meure.
Oui.
C'est ce qu'il fallait pas faire.
Et là, si on vous proposait, Nicole Calfon, aujourd'hui, Eric Ruff vous appelle.
Non, mais tu jouerais rien du tout. Là, maintenant, vaut mieux que tu restes au boulevard avec moi.
Pourquoi donc ? Parce que regardez, pourquoi je jouerais ?
Toujours bien les encouragements.
Parce qu'il y a un problème d'emploi à la Comédie Française. On joue du théâtre classique. Mmh. Et là, les emplois que Nicole
elle
jouait...
Elle joue plus, il y a beaucoup de filles qui jouent pas.
Oui.
Moi, j'ai une voix qui s'ouvre en ce moment. Je joue toutes les grand-mères, les mères, au cinéma. Je suis ravie.
Mais c'est pas incompatible, on le voit maintenant qu'on peut être sociétaire ou pensionnaire et jouer au cinéma. C'est le cas des Pierre Niney ont montré la voix. On voit Laurent Lafitte, c'est toujours...
Guillaume Gallienne.
Oui, il y en a vraiment beaucoup.
Oui. Mais sur les garçons.
Mais c'est vrai qu'on ne donne que des garçons, c'est vrai.
Dominique Blanc,
j'ai des exemples de femmes et les noms vont me revenir.
Oui.
Justement, le personnage principal du dernier film de Guillaume Gallienne, Adeline Derry, Dermy, elle est à la Comédie Française et elle était le rôle titre.
Enfin, moi, je l'ai beaucoup fait. J'ai beaucoup fait les tournages et la Comédie Française en même temps. Non, je pensais théâtre, Là, je suis bien comme je suis au boulevard avec Jean-Luc et on va l'être de plus en plus, à mon avis. Et c'est harmonieux.
Alors restons à la Comédie Française, et cette fois-ci avec Jean-Luc Moreau. Que faisait Louis Seignier sur scène quand vous jouiez ensemble ? Alors, ne dites rien, Jean-Luc. C'était le malade imaginaire à la Comédie Française, mais que faisait ce grand Louis Seignier ?
Il s'endormait ?
Non.
Il faisait semblant de faire un contexte ?
Il vous faisait des bêtises ? Des blagues ? Pour que vous rigoliez ?
Non.
C'est vocal ?
Oui.
Il rotait ?
Non.
Non.
Il vous disait des insanités ?
Alors, il disait des choses, mais c'était pas des insanités.
Il disait un faux texte pour que vous trompiez.
Non.
Il lui parlait comme si...
Toi, tu serais une mauvaise camarade sur scène.
Ouais.
Souffler des mauvaises répliques pour que l'autre se trompe.
Il parlait du public ?
Non, pas du tout.
Qu'est-ce qu'il pouvait faire ?
Il critiquait.
Et ça vous désarçonnait ?
Au contraire.
Des blagues ? Non. Ah, il lui soufflait son texte. Il avait le texte dans
la... Non, Jean-Luc avait son texte, mais...
Il faisait des tours de magie.
Mais non, quelque chose de positif. Il lui disait
l'encourageait, c'est bien. Il disait qu'il était super.
Ah ouais, il disait bravo.
Il vous donnait des conseils.
Trop mignon.
Ah, des conseils.
C'est-à-dire que Louis Seignier, c'était mon professeur au conservatoire. Et comme professeur, il était très mauvais. Il me regardait jouer. C'était un gros monsieur. Il remet les cuisses comme ça. Puis il parle comme ça. Il me dit, tu boules, parce que je parlais très vite. Tu boules. C'est tout ce qui me donnait comme impression.
Tu boules.
Je boulais mon texte.
Ah, bouler, ça veut dire de parler trop vite. D'accord. Ouais. Bouler.
Bon, alors jusqu'à là, bon.
Et c'est dingue comme même verbe peut avoir un autre sens aujourd'hui, hein, parce que.
Oui, bien sûr.
Non, mais le boule maintenant en argot, on est plus proche des fesses que de l'articulation en tout cas.
Ah oui, c'est les boules.
Bouge ton boule, oui, c'est ça. Bouge ton boule. Pardon.
Voilà, c'était.
Non, pas c'est pas les boules, non, c'est bouche ton boule. C'est pas derrière, c'est boule derrière.
C'est à la voilà, chacun ses références.
Bah oui,
une petite parenthèse. Alors, il dit donc, tu parles trop vite. Et là, effectivement.
Et là, sur scène à la Comédie Française.
Alors, je vais aller vite, hein. Mais c'est quand même important. Et celui qui m'a préparé mes concours de sortie, c'était pas Louis Séné, parce qu'il n'était pas le plus fort, c'était Jean Pérémoni. Donc je sors de la Comédie Française, j'ai deux premiers prix, je rentre à la Comédie Française, premier rôle que je joue, Louis Séné, le malade imaginaire, moi je joue Thomas Diafoirus. Et là en scène, il m'a donné le premier cours de ma vie.
Génial.
Là, alors que ça faisait deux ans.
Mais quoi, en marmonnant pendant que vous jouiez
Attends, respire. Voilà.
Devant le public.
Oui, mais c'est très, génial. Très doucement.
C'est, bon. C'est génial.
Évidemment. C'est génial. Et alors, je faisais un effet comique. Je dis, ben tu vois. Non, mais c'est super.
C'est drôle d'avoir deux lectures comme ça. Ouais. C'est-à-dire de porter la voix pour jouer et de marmonner des conseils.
Attends, il disait en tapant sur son...
Et sans défaire la mâchoire.
Oui,
quoi.
Oui, ouais. Oui, c'est trop
oui, pardon, Nicole.
Non, pardon à Jean-Luc. Moi, ça me fait penser à Jean Poiret, qui dans Joyeuse Pâques me disait « Du rythme, Calfan, du rythme !» dans toute la pièce.
Ouais, mais là, tu souffrais, là.
Là, je souffrais.
Alors ouais. Justement, à propos de Jean Poiret, on va en parler, c'est son fils, Nicolas Poiret, qui a écrit cette pièce avec Sébastien Blanc. On y revient dans quelques instants, mais encore une question concernant, justement, Nicole Calfan. Quel rôle extrêmement sulfureux d'un film mythique
Emmanuel.
A-t-elle refusé
ne Belle de jour
Non.
Barbarella, Emmanuel
Non.
35-2
Non.
37-2
C'est 37, hein,
oui. Ouais, elle était froide. Elle était morte. Ouais, ouais, ouais,
Il manque un peu de cuisson, Léna, mais elle va arriver. Hein.
C'était hier avec Jean-François Piège.
C'est
elle était,
ça.
Elle était meilleure sur la cuisson.
C'est ça, Belle de jour.
Non. Extrêmement sulfureux.
Un film sulfureux.
Gorge
profonde.
À tel point que... On n'est pas loin, mais à tel point que la comédienne, pardon de dire ça
Brigitte
comme ça, n'en est pas sortie.
Dernier tango.
Totalement, Valérie. Exactement.
Ah oui, ouais. Vanessa Schneider.
Non, Maria.
Et Vanessa a écrit un super bouquin sur sa tante.
Exact.
Ou sa cousine, ouais.
Vous avez refusé le dernier tango à Paris.
Oui, le metteur en scène en question est venu en studio où on tournait le casse avec Belmondo.
Bertolucci, donc.
Ouais.
Il est arrivé à la cantine, nous a donné deux brochures. On était en train de déjeuner, il s'est mis à côté de nous. Et il a dit, voilà, j'ai un film formidable pour toi et la petite. Et Jean-Paul, qui est en train de déjeuner, lui dit, mais il y a des scènes...
Osée,
il a dit, ah mais non, c'est plus que ça, c'est un film sexuel. Et Jean-Paul, il a repoussé les deux manuscrits, il a dit, c'est pas pour moi, c'est pas pour la petite. Voilà, c'est tout.
C'est
ça
mignon.
A été fin de l'histoire.
Donc c'est Belmondo qui vous a
protégé. Protégé.
Cela dit, Belmondo a toujours détesté... faire des scènes de cul au cinéma. Absolument. Il en l'a pas fait, d'ailleurs.
Alors, j'ai appris, Belmondo, hein. Mais alors vous qui connaissez tout de vos métiers, vous allez me confirmer ou infirmer ce que j'ai appris. Le rôle de Marlon Brando avait été proposé à Jean-Louis Trintignant. C'est sa fille qui, ayant lu le scénario posé sur la table, a lu et dit, mais papa, tu vas pas faire ça.
C'est très possible.
Et n'a pas joué ça. Et ce que l'on m'a également raconté toujours à propos de ce film, c'est que les scènes avec le beurre, on va dire, voilà.
Ah, les produits laitiers.
Voilà,
aux amis pour la vie.
Ont été réellement tournées et que la comédienne ne savait pas.
Ouais. C'était pas écrit sur le scénario.
C'est ça. Donc
c'est un viol.
Ça s'appelle un viol. Ouais,
c'est un viol. Ouais. Elle s'en est jamais remise d'ailleurs.
Bah oui, c'est fou, mais c'est fou que ce réalisateur ait ses lettres de noblesse malgré ses horreurs.
Je le déteste.
Non, mais il y a de quoi.
Mais c'est sorti il y a peu de temps, en fait, l'histoire, en même temps.
Que tout est, que rien n'est écrit dans le scénario.
Ouais, pas que c'était un viol.
Ouais, et que en fait, Marlon Brando et Bertolucci le étaient savait. Complices, eux savaient.
C'est ce qu'on dit.
Ouais, c'est ce qu'on dit. Bon, d'accord. Café un jour Jean-Luc Moreau, un truc de dingue. Café un jour Jean-Luc Moreau contre un célèbre critique du Figaro.
Il a posé une bombe.
Un truc de dingue.
Il lui a envoyé un colis avec des excréments.
Il lui a lancé son.
Pas loin.
Des testicules d'animaux.
Non. Il lui a envoyé un petit pot de beurre.
Non.
C'est ce qu'a fait Claire Castillon une fois.
Salé.
Non.
Il lui a envoyé quoi, une
lettre ?
Il a
mis du caca sur les portières de sa voiture.
On n'est pas loin.
Il a rayé sa bagnole, il a laissé des choses sur le palier de sa maison.
Il a fait pipi sur devant sa porte. Sur sa voiture.
Sur la voiture.
Sur lui. Sur lui.
Non, sa voiture.
Oh là là, mais ça va pas.
Qu'est-ce qu'il y a?
Mais vous avez uriné.
C'est quoi l'histoire?
Vous avez uriné sur Jean-Jacques Gauthier.
Yes. Ah, j'applaudis.
Non, parce que Jean-Jacques Gauthier, c'était...
Oui, le nouveau
vraiment...
terrorisme du pipi, tu sais. C'est un nouveau mouvement.
Attentat à l'urine.
C'est une ligue. C'est une ligue à part. Mais on pourrait participer.
Je peux tellement faire ça.
Le super héros.
Si je peux me permettre, c'est moins facile pour viser, quand même, si je peux me permettre.
Oh, ça dépend.
Ça, tu sais. Ouais.
Ça dépend. Sur Internet, on vend un petit appareil maintenant.
Merci Jean-Luc.
Je connais très bien.
Mais comment vous avez...
Alors, comment m'est venue l'idée?
Non, est-ce que c'était l'opportunité, le moment où vous étiez là côte à côte et une envie pressante vous a fait dire tiens, je vais le faire, ou vous êtes parti un matin en vous disant avant ce soir,
je me retiens toute la journée.
Ouais, avant ce soir, j'aurais uriné sur la
bière. il avait fait un. J'étais à la Comédie Française. Il y avait deux spectacles. Il y avait un Marivaux qui était monté par Jean Piat et moi je jouais les Précieuses Ridicules. Et c'était un rôle très important pour moi. Et dans sa critique, c'était première page du Figaro, les critiques de Jean-Jacques Gauthier. Alors il parle de Jean-Pierre, il dit que Jean-Pierre c'est un, et il dit en seconde partie, les Précieuses Ridicules, point. Rien. Pas un mot. Moi j'étais vert.
Mais c'est pas méchant.
C'est plus que méchant. C'est quand on est méprisant. Nié, c'est plus que méchant.
Ah oui, d'accord.
Hein? Alors moi, ça, bon.
Ça vous donne envie de faire pipi.
Ça me donne envie de faire pipi. Je me contiens. Il se trouve que 4 jours
Mais vous
tard,
êtes un grand malade,
Jean-Luc. Dans une salle de théâtre où j'étais, il y avait Jean-Jacques Gauthier.
En
à l'entracte, il va aux toilettes. Je me mets à côté de lui. Je pisse et d'un seul coup, je pisse dessus.
Non. Mais ce mec est dangereux.
Vous êtes vraiment un vrai terroriste.
Il a cru à un accident ou il a compris que c'était.
Non, mais il était choqué, tu vois. Il avait. Ah, mais qu'est-ce que c'est, bon.
Et alors, elles sont ridicules, les Précieuses.
Ah, comédien. Bravo. Comédien. Ah oui.
Elles sont ridicules, mais précieuses.
Ah ouais, hein. Pas mal.
Et il a écrit sur vous. Après, voilà,
c'était ma dernière, je vous quitte.
Sur un triomphe.
C'est tout pour lui.
Vous parliez de Jean-Pierre, la dernière fois que j'ai eu la chance de croiser son doux regard, son doux sourire et de lui parler, c'était justement en allant voir Deux mensonges et une vérité.
Oui, absolument.
On était là le même soir.
Oui, je me souviens très bien.
Tous les deux pour applaudir cette pièce dont nous allons maintenant parler, ces deux mensonges et cette vérité. Alors c'est le titre est un concept de jeu décidé par le mari en disant bah écoute très bien. Faisons un jeu pour prouver que
je connais tout de toi.
Voilà, qu'on se connaît extrêmement bien. Je vais te donner 2 mensonges et une vérité, et tu ne vas pas être capable de. Enfin non, je sais que tu vas savoir quelle est la vérité, quelle est le mensonge.
Trouvé, voilà.
Et donc il donne ces 2 mensonges et une vérité. Et elle trouve évidemment tout de suite, lui a gagné. Il se dit voilà, tu vois qu'on se connaît extrêmement bien, qu'il n'y a plus aucune surprise. Et elle là-dessus, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui sort 3 affirmations et là. Tout bascule.
Il est dévasté, mais il faut dire quelles affirmations quand même.
Il le déglingue.
Alors tu dis quoi?
Alors, j'ai eu un enfant avec un autre.
C'est terrible.
Mon prénom et mon nom de jeune fille sont faux.
Donc je vis avec une femme que je ne connais pas.
Depuis 27 ans.
J'ai fait de la prison.
Pourquoi? Alors ça, c'est...
Qu'a-t-elle commis?
Ça le rend cinglé, quoi, évidemment. Alors il va courir pendant 1h30 pour essayer de trouver.
Il faut dire qu'il est avocat en plus. Donc ce qui...
Alors il est avocat, il fait le malin d'ailleurs.
Ce qui ne va pas l'aider dans ses dossiers.
Oui, mais il fait le malin au début. Moi, je suis avocat, donc j'ai l'habitude, c'est faire exploser la vérité. C'est très simple pour moi, et pas du tout. Il va devenir cinglé, quoi.
Et alors, déjà le point de départ sur ce qui se passe dans un couple qui se connaît depuis 27 ans, on se dit c'est une formidable histoire d'amour, mais vraiment la vision, Nicole Calfan, que la femme a du couple n'est pas du tout la même que celle de l'homme.
D'abord, je bénis ceux qui sont arrivés à plus de 27 ans d'union, parce que moi j'y suis jamais arrivée. Je sais pas comment
c'est
ils font.
Attendez, il reste encore plein de possibilités, Nicole. Attendez.
Non, je pense que c'est trop tard.
Mais non.
Et oui, il lui dit la pire chose qu'une femme puisse entendre, c'est...
Ce qui était drôle.
Dit-il en lui caressant la joue.
C'est... Tu ne me surprends plus, je connais tout de toi. Ouais. Il ne peut plus rien se passer, nous sommes dans une retraite amoureuse.
Approchez-vous du micro, c'est beaucoup plus pratique pour
nous
la radio.
J'étais bien, donc je prenais du recul.
C'est bien, oui, mais...
Donc nous sommes dans une retraite amoureuse, il ne peut plus rien se passer, tout est arrivé, c'est le nirvana. Mm-hmm. C'est le bonheur absolu.
Il trouve ça formidable.
Il trouve ça formidable. Mais
évidemment. Évidemment, je sais ce que tu penses, je sais ce que tu ressens. Voilà. Il y a même une phrase très, très jolie.
Nous sommes jumelés.
Sur, voilà, sur le jumelage, mais
synchronisé,
aussi.
Synchronisé. Non, non, mais
sur la coupe de cheveux, le massage.
Ouais,
voilà.
C'est très beau, ça.
Tu penses à un truc, c'est moi qui le dis. Tu vas chez le coiffeur, c'est mes cheveux qui tombent. Tu fais du sport, c'est moi qui ai les courbatures.
Voilà, non, non, mais c'est très joli. C'est-à-dire que c'est une osmose, une symbiose parfaite dans le couple. Lui, il se dit, c'est le summum. On est arrivé à ce dont tous les amoureux doivent rêver, c'est-à-dire on ne fait plus qu'un. Et là, elle, c'est l'horreur.
Bah oui.
Elle devient folle et elle va le mettre à l'épreuve et lui faire payer très cher.
Alors, elle est machiavélique. C'est vrai, hein, quand
oui,
même. Et
oui,
elle prend un
drôle.
Plaisir.
On va évidemment pas dévoiler la fin, mais elle le rend fou. Et d'ailleurs, le jeu est là. C'est-à-dire qu'il perd ses moyens, il perd ses repères. Même sa propre fille se mêle de cette histoire, Justine.
Ouais. C'est ça qui est important.
Mais ce qui est terrible, c'est que la folie dans laquelle ce personnage va tomber, ça amuse le public.
Bah oui.
Ben c'est horrible. Moi, j'en veux beaucoup au public de rire autant.
Et c'est pour ça que vous faites pipi sur le public tous les soirs.
Qu'il envoie chalut.
Non, mais c'est vrai. De toute façon, c'est toujours les situations dramatiques qui font rire.
Ouais. Mais là, il y a des moments où je vis des choses pas rigolotes. Et vraiment, le public rigole.
Et en même temps, vous le cherchez bien, j'ai envie de dire. Parce que vous êtes plein de... Votre personnage, en tout cas, Jean-Luc Moreau, est plein de certitudes. Il a quand même une petite tendance à ne pas aimer avoir tort et à ne pas vouloir se remettre en question.
Clairement, oui.
C'est vrai, tout ça est juste.
Une mauvaise foi épouvantable.
Ouais.
Tais-toi, Albert.
Donc c'est quand même un personnage qui a besoin d'éprouver par ce petit jeu qu'il n'est pas aussi... c'est que c'est pas aussi évident que ça, l'amour, en fait. Il n'y a pas de recette si simple.
Ah oui, non, mais c'est un homme qui a un petit peu buté, c'est certain, et comme le sont certains hommes, dont je ne fais pas partie.
Pourquoi vous regardez,
mesdames.
Non, mais vous regardez Albert en disant ça.
Parce qu'Albert, je le connais depuis tellement longtemps, alors je sais ce qu'il pense de la vie, je sais en quoi il croit.
Le vieux couple,
tu crois ça.
Ouais. Les deux mensonges, une vérité. Voilà, on pourrait jouer
donc,
à ça.
Continuons sur les hommes, alors, oui.
Oui, ben, je crois que, et aussi, ce personnage-là, il a besoin de recevoir une petite leçon. Et à la fin de la pièce, je crois que la pièce est assez féministe, finalement.
Ah oui, c'est une pièce féministe.
C'est pas du tout une pièce où, pour une fois, l'homme fait le malin jusqu'au bout. Pas du tout.
Il finit
très mal.
Il est baladé, mais la vraie question, c'est est-ce que ce jeu, pour reprendre l'expression du petit jeu sans conséquence, est-ce que ce jeu va nuire définitivement au couple et sera une cause de rupture, ou au contraire, est-ce que ça va redonner un deuxième souffle au couple? Non, mais on va peut-être pas y répondre.
On n'y répond pas forcément dans la pièce, mais lorsque...
Mais quand on y assiste, en tout cas, on se demande jusqu'où ça va aller. Ouais.
Ouais. Oui, mais je pense que l'ouverture de la fin de la pièce ouvre sur quelque chose de très positif.
Et ce jeu du chat à la souris aussi, avec cette petite souris, c'est aussi exacerbé avec le duo que vous formez au-delà de votre couple avec Nicole Calfan, avec votre confrère avocat, Stéphane...
Avec Stéphane.
Wojtkowicz, c'est
oui,
ça
oui.
Qui est là, pour le coup, est rempli
qui joue,
de...
Qui joue Edouard, ouais. Et qui n'en peut plus non plus.
C'est-à-dire que là où les auteurs sont assez habiles,
Sébastien Blanc et Nicolas Poiré.
Ouais, ils ont donné un personnage d'un second avocat qui est mon associé et qui est le lourdeau par excellence. Comme il est mon associé, je lui demande des conseils et ce jeu de piste qu'on va mener pendant une heure et demie, cette espèce de track, cette pièce à suspense, parce qu'il y a du suspense, il va m'aider, mais au lieu d'être tout à fait positif, il est un petit peu jaloux de moi et donc ça va être un peu un rapport de clown, un peu comme avait Serrault et Poiré. Vous voyez, c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans l'écriture de la pièce,
le savoir-faire Poiré.
Ouais. Ah ouais.
Et il y a, vous avez raison, il y a une intrigue. On essaye, nous aussi, de se mettre à la place de ce pauvre mari baladé, et de résoudre l'énigme en se disant si j'étais à sa place, j'irais vers quelle piste.
J'opterais pour quelle
Exactement.
Sachant qu'on n'a pas dit un truc truc important, c'est qu'il n'a le droit qu'à une seule réponse.
Ah oui, sinon il perd.
Et oui, sinon il ne saura jamais la vérité. Donc ouais. Ça veut dire qu'il pourrait s'amuser à balancer tout de suite une hypothèse. Non, il faut qu'il soit sûr de lui, sans quoi il se condamne à vivre toute sa vie en ignorant la vérité sur sa femme.
Et sur ces trois informations et qui sont aussi alarmistes et alarmantes l'une que l'autre. Oui, absolument, tu as raison.
Mais je vais y repenser en jouant ce soir la pièce, que finalement c'est terrible ce qui m'arrive, grâce à Leïla.
Voilà. J'aurais vous souffler Leïla, en bas si vous voulez.
Là où Leïla a raison, c'est que je crois que ce n'est évoqué que deux fois dans la pièce, le fait qu'il n'ait pas de possibilité de proposer. Donc il faut bien, il ne faut pas le louper ce moment-là. Comme ça rit beaucoup, on peut par moment passer à côté de certaines choses. Mais ça rit énormément. Deux mensonges et une vérité, Théâtre Montparnasse, avec Nicole Calfon et Jean-Luc Moreau qui sont nos invités, entre autres, il y a également Stéphane Wojtowicz, Nicolas Moreau, Nel Darmouni et Tristan Robin, mis en scène par Jean-Luc Moreau. Jean-Roger Navarro, c'est un succès déjà. C'est déjà un succès. Mais
ma parole d'honneur, Nagui, c'est clair comme de la bourra. L'alcool de figue que mon oncle Roger en raffolait, c'est deux mensonges et une vérité, ça va avoir du succès. D'abord, cette pièce a pissé de rire. On en a parlé. Elle est servie par Nicole Calfon et Jean-Luc Moreau, qui sont extraordinaires. Qu'on dirait qu'ils sont mariés pour de bon depuis 27 ans, synchronisés, jumelés, tous ces deux-là, quel bel père. Et donc, cette pièce, qu'est-ce que ça va pas attirer comme monde? À commencer par les couples qui font la nouba pour leurs 27 piges de mariage, les fameuses noces d'acajou. Il en est question dans la pièce. Mais attention, l'acajou, si qu'on dit qu'il symbolise la passion, c'est aussi un bois dont on fait les cercueils qui sont magnifiques. L'acajou, c'est l'amour et c'est la mort. Eros et Thanatos, comme dirait Leïla Kaddour, qui parle le grec couramment. Alors vous suivez mon analyse, qui est subtile, Nagui, vous avez suivi.
Oui, je suis choqué. Bon.
Alors d'un autre côté, faut pas être choqué. D'un autre côté, en offrant à sa femme son poing en noix de cajou, c'est au début de la pièce, Philippe, il exprime la forte attirance charnelle qu'il éprouve toujours pour Catherine, malgré qu'elle soit son épouse depuis 27 balles. Le subjonctif, je sais le manier quand même. L'amande de la noix de cajou, c'est un puissant aphrodisiaque. D'ailleurs, mon tonton Roger, il en grignotait tout le temps à l'apéro en buvant sa bourra. Ça explique que les effeuilleuses de la route mandarine, le bobineur à Pigalle, où ce que tonton il avait ses habitudes, elle l'avait surnommé commissaire Gourdin. Voilà, purée, que je serais mieux casquer l'enclume, l'émission qui font la critique culture. Mais faisais gaffe quand même, car si j'adorais cette pièce, monsieur Moreau, il y a une chose qui m'a escagacé. C'est tout ce temps que vous mettez à lui faire avouer la vérité à Nicole, à lui faire cracher sa merguez. Avec tonton Roger, je peux vous dire que ça aurait pas traîné une plombe et demie. C'est simple, il aurait sorti son bottin téléphonique de Babel Oued, qui se servait pour faire parler à lui les suspects enfants de salaud. Et la mort de mes os, je peux vous dire que la Catherine, ses deux mensonges et sa vérité, si elle ment, elle les aurait crachés fissa. Alors j'ai pas le temps de vous faire la démonstration. Bonne émission.
Merci.
La bande originale.
La pièce est écrite et signée de Sébastien Blanc et Nicolas Poiret. Le point de départ de leur explication sur la pièce, c'est, ils disent, on arrive toujours à prononcer une phrase que l'on finit par regretter. C'est un peu la phrase qu'il a prononcée, lui, en disant, allez, on fait ce jeu de deux mensonges et une vérité. Et ça va lui... Ça va lui coller.
Il y a des phrases qu'on prononce tout de suite, mais c'est pas parce qu'on les a prononcées qu'on n'est pas prêt à regretter de les avoir prononcées.
Oui,
c'est
parce qu'elle a presque envie de l'entendre s'excuser d'avoir fait ce jeu, voilà, de dire j'ai eu tort ou tu as raison. C'est des phrases simples dans un couple, mais ça, il est incapable de le dire.
Je voulais rajouter quelque chose sur le plan féministe. C'est que, enfin, moi, je le ressens comme ça. C'est que elle est. Pendant la pièce, pendant qu'il se débat à cause de ce qu'elle a dit, elle est très, très touchée. C'est-à-dire qu'il y a un autre plan à jouer. C'est qu'est-ce qui m'aime cet homme? Dans quel état il se met pour moi? Jusqu'où il va pour moi? Et c'est pour ça qu'à un moment donné, elle lui dit « on arrête tout ». Et il ne veut pas arrêter. Mais elle se rend compte tellement des dégâts qu'elle a fait chez lui, pas forcément.
Ça, c'est dans un Nicole Calfon. C'est dans un deuxième temps. Dans un premier temps, elle est avec beaucoup de malice et
elle est un peu contente. Très vite, la scène du restaurant. Oui. Même si ça ne se voit pas, parce que je le joue peut-être mal.
Au début, elle prend plaisir à ce jeu.
Elle est nourrie de ça. Et quand je lui vois faire ses démonstrations magnifiques à la Poiret sur le poulpe et tout ça, elle se dit, qu'est-ce qu'il est inventif, qu'est-ce qu'il est intelligent, jusqu'où il va. et elle est comme ça, et elle est à nouveau séduite.
Par sa mauvaise foi aussi ?
Oui, je voulais le dire.
Très bien. Voici Agnès Hurstel.
Bon, les amis, on part en vacances 3 secondes.
Ouais.
Le monde part complètement en sucette. Moi, je pensais que les gens pouvaient s'autogérer. En fait, pas du tout. Nagui s'absente 1 semaine et encore uniquement pour aller reconnecter avec ses enfants, qui sans ces quelques jours en famille finiraient par ne plus reconnaître leur père et se diraient « Mais qui est ce gentil livreur Deliveroo qui a réparé un soir la fibre et qui maintenant dort avec maman et paye pour mes études ?» Nagui, donc, est parti se ressourcer. Boum, c'est le bordel. Le climat se dérègle, on est re en novembre. Game of Thrones laisse des gobelets Starbucks dans le champ.
Mais ouais, ouais, j'ai vu ça.
Dingue. Castaner dit des bêtises, bon ça, bon. Et surtout, voilà, vous êtes partis en vacances et tout le monde est mort. Dick Rivers, quick. Marielle, quick. Anémone, moi je ne suis pas d'accord, on ne va plus partir. Anémone, c'est un génie du jeu, faut le dire. Une tronche pas possible, mi-moche, mi-belle, intense, drôle, mentor de jeu pour beaucoup de comédiennes. Et puis surtout, une parole libre et pas du tout consensuelle, c'est rare, voilà, je voulais juste le dire. Bref, à ce rythme-là, on va revenir fin août. On va apprendre que Catherine Deneuve, Pogba, non, Eddie De Pretto et Anne Roumanoff ont canné pendant l'été tellement l'émission leur manquait. Moi, je ne peux pas.
Arrête.
C'est trop de responsabilité. Imaginez le jour où Catherine Deneuve va mourir. Non, mais c'est impensable. C'est comme Notre-Dame de Paris qui flambe ou Daniel Morin, cheveux au vent sur une trottinette électrique. Vrai. Heureux. C'est improbable pour le cerveau. En même temps, ça me fait réaliser un truc hyper bizarre. J'ai un rêve depuis toute petite. C'est vrai ce que je vais vous dire. Je rêve d'être au César, mais pas du tout pour avoir un prix. Je rêve d'être dans la rubrique nécrologique.
Ah, tu veux
dire, c'est mon moment préféré, le truc en noir et blanc, l'hommage, je chiale à chaque fois. T'as toujours 2-3 monteurs dont tu connais pas le nom et tu fais semblant, tu dis ah ouais, Jean-Noël, très bon gars, il était dans des Truffauts, je crois. Moi, je sais pas, c'est mon moment préféré des Césars. Et il y a un autre truc bizarre qui s'est passé pendant votre absence et qui me turlupine depuis une semaine. Oui, c'est la différence de traitement qu'il y a eu dans les médias entre la mort de Marielle et celle d'Anémone. On n'a pas lu un seul papier sur Marielle, titré « Bon comédien, mais surtout très mauvais père à la ville, toujours absent, il regrettait d'avoir fait des enfants et de pas s'être fait une petite vasectomie, le salaud ». Ça vous paraît absurde ce que je dis ? C'est pourtant les papiers qui sont sortis sur Anémone.
Ouais.
Il est sorti que oui, c'était une bonne comédienne, mais surtout qu'elle avait eu 2 enfants qui lui avaient gâché la vie et qu'elle aurait préféré se faire ligaturer les trompes. Donc voilà, super épitaphe, merci les journalistes. Moi je propose un truc. Bah, c'est qu'on nous foute la paix, en fait. Ou bien qu'on écrive la même chose, tu vois, on reprend les papiers sur Johnny et tout, et on y va franco, on écrit la vérité. Donc voilà, moi je me dis, c'est vrai que quand Catherine Deneuve décédera, parce que je suis désolée, mais Catherine Deneuve décédera, j'aimerais vraiment que le monde ait évolué. Et qu'on ne lise pas dans la presse, oui, Catherine, grande actrice, mais bon, elle a quand même accouché par césarienne, et puis elle a fumé pendant ses grossesses, et surtout, elle a jamais voulu allaiter. Bouh, voilà. Bonne semaine, les amis, et laissez-nous tranquilles.
Merci, Agnès.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
La bande originale de Nicole Calfan et Jean-Luc Moreau qui viennent nous parler de 2 mensonges et une vérité qui est au théâtre Montparnasse. Une pièce extrêmement drôle, c'est du mardi au samedi avec 2 représentations le samedi.
Oui.
Très bien. En musique, vous écoutiez Nicole dans les années, fin des années 60.
Mais Anémone.
Tu veux dire quelque chose, dis-le.
Ouais. Non, je voulais rebondir sur Anémone, parce que je l'ai mis en scène, Anémone, j'ai mis en scène avec Fabrice Lucchini, tous les deux, et Claire Nadeau. Et Anémone était une intellectuelle, et une fille très, très, très bizarre, très atypique. Elle s'allongeait par terre, elle roulait des pétards, mais il y a 20 ans, hein, elle roulait des pétards en lisant Libé, comme ça, et elle disait, oui, non, mais j'attends mes répliques, le théâtre ne l'intéressait pas du tout, elle le pratiquait très très bien, mais c'est pas ça qui l'intéressait, c'était la vie politique. Elle était très engagée, et donc c'est pour ça qu'on en fait un phénomène, qui est très, dans notre métier, qui est très particulier.
Très atypique, mais c'est vrai.
Et de la même manière, Marielle, lui, il était là par hasard, quoi. Mmh. C'est un surdoué qui a glandé dans le métier et qui a fait quelques très grands films.
Et concernant Anémone, moi, j'ai trouvé, en revanche, que réentendre sa parole sur la maternité, alors, soit on considère que c'est l'associé à elle et c'est terrible, et en même temps, j'ai trouvé cette parole hyper intéressante
parce que
dire qu'on ne s'épanouit pas en tant que femme nécessairement par la maternité, c'est un discours qu'on peine encore à entendre.
Et qui est important à entendre, même pour débattre après. C'est ça. C'est vraiment important. Donc c'est tellement rare des comédiennes qui ont une parole aussi libre et pas consensuelle.
Mais on peut peut-être attendre un tout petit peu avant de le préciser, après qu'une personne nous quitte. Quoi. Il y a un petit délai de politesse.
Mais c'est une des grandes saillies d'Anémone, et je trouve que, bon, je comprends complètement le point de vue d'Agnès, et je suis complètement d'accord, et en même temps, je me suis dit, ça fait du bien de réentendre cette parole.
Ah non, je suis hyper d'accord, j'ai réécouté toutes ces interviews ce week-end, et je la trouve hyper brillante, en fait, dans tout ce qu'elle dit. C'est juste que là, dans les articles, pour le coup, c'est pas comme ça que c'est tourné, quoi. Personne, évidemment, n'entend sa parole comme un truc intelligent.
Ouais, mais tant pis pour eux.
Ouais, exactement. Hein.
Donc, retour à la musique et à ce que vous écoutiez. Non, mais tout va bien. La parole est libre aussi. Dans fin des années 60, Nicole Calfon, vous écoutiez Claude François. Claude François, qui a co-signé la musique et qui a co-signé les paroles de cette chanson, qui est un succès mondial. Ouais. Vous l'écoutez, ça vous...
J'aime toujours autant. D'abord, j'adore Claude François. Je me souviens, un jour, il avait donné un concert à Menton. Mes parents avaient une maison tout près. Et j'avais...
Dans le sud de la France, capitale du citron.
Ouais, exactement.
Et la ville des frères Bogdanov.
C'est vrai?
Oui, c'est ma fille qui l'a dit. Hein. Vous êtes de Menton.
Je comprenais même pas la vanne. Allez. Voleur de vanne.
Pas les vieilles blagues.
Et donc, j'avais 15 ans. Je crois que j'étais même pas au conservatoire. J'étais déjà amoureuse de Claude François. Et je me souviens, toute la nuit, je lui avais écrit une lettre. Et j'avais mis une petite photo de moi en disant, peut-être que je vais rentrer au conservatoire. Un jour, il m'a jamais répondu. J'étais désespérée.
Est-ce qu'il était à la table du restaurant, témoin du mariage avec Jean-Yann?
Tout à fait. Le soir, nous sommes mariés symboliquement avec Jean-Yann. C'est vrai que ça m'a beaucoup marqué. Il était avec sa Kathleen, je crois.
Oui, exact. Ouais.
Une beauté.
Avec qui il avait fait quelques duos, d'ailleurs.
Voilà. Mmh. Et ils s'embrassaient. Et je n'ai jamais vu embrasser un homme comme ça. Il se noyait. Je l'ai écrit dans un roman.
Il bavait?
Non, pas du tout. Il embrassait comme on se noie, j'ai écrit. C'était fulgurant.
Voilà. Je l'ai écrit?
Je l'ai écrit. Ah ouais,
Claude François, il y a un gros effet Claude François, quoi. Vraiment.
Ah oui, mais qui n'a pas adoré Claude François?
Oui, oui. 68, en tout cas, c'est votre entrée à la Comédie Française. Est-ce que, on parle du Bachot en 68-69, on parle de la Comédie Française dans cette époque-là. Qu'est-ce que ça change d'être en 68 à la Comédie Française à un moment où les rues s'embrasent et la contestation monte?
Ça change que...
Puis on va peut-être pas beaucoup au théâtre en plus.
Ça change que...
On a beaucoup niqué, hein, je crois. Alors là, ça c'est sûr.
Ça change qu'on est à contre-courant, qu'il y a la révolution, qu'il y a des pavés qui se jettent dans les rues et que moi j'ai qu'une idée en tête. On m'a enlevé ma deuxième année de conservatoire. Je ne pourrais pas concourir. Le conservatoire est envahi. Je suis désespérée et je n'ai qu'une idée en tête, faire du théâtre. Et donc je suis, comme on dit, jaune, c'est ça. C'est-à-dire que j'apprends par mes parents qu'il y a une audition sur la scène du Français, par Marie-Belle d'ailleurs, et je me présente et j'entre à la Comédie Française. On n'est que trois à se présenter, donc je suis absolument apolitique. C'est pas bien ce que j'ai fait, mais je le regrette pas du tout. J'étais briseuse de grève.
C'est ce qu'on a dit, c'est jaune, c'est ça, ouais, c'est l'expression, ouais. Absolument. Même période, Jean-Luc Moreau, vous écoutiez Led Zeppelin. Cultissime ce morceau. Énorme. Et là, vous l'entendez, vous voyez dans quel...
On sait ce qu'il faisait.
Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, en même temps, ouais. Je retire la question. Non, je retire la question.
L'année d'après, en tout cas, en 69.
Oui.
Voilà. Vous entrez,
là aussi,
vous.
Là aussi.
Même programme.
C'est votre entrée à la Comédie Française. C'est une sorte de continuité avec Jean-Luc Moreau. C'est que bien. C'est ça.
Exactement.
Alors vous, votre entrée à la Comédie Française, donc... Là, c'est à peu près la même question, mais un an après le,
on est bien tous les deux en radio parce que ça va plus vite. Moi, j'étais absolument dans le clan opposé de Nicole.
Vous étiez un terroriste en puissance, vous, en plus.
Oui, moi, c'était le contraire. J'étais dans le feu de l'action. Et je dirais, pour être tout à fait honnête, que étant dans le feu de l'action, j'étais finalement très conventionnel. Que la position qui était originale, c'était celle de Nicole. Et moi, j'avais tellement peur de pas faire partie du groupe que je me suis laissé entraîner. Alors, je fumais comme un malade. Je l'ai dit tout à l'heure. On avait beaucoup de sexualité parce que c'était un moment où c'était très.
Tu parlais de toi, pas de moi.
C'était une véritable libération.
Ouais. C'était une véritable libération, mais on avait quand même encore des chemises avec des cravates. C'est ça qui était sympa quand même.
Ah oui, libération chic.
On était quand même encore avec des costards, quoi.
Et c'est vrai que quand on voit les images de mai 68, ils sont en costume, les étudiants qui manifestent. Ouais.
Moi, j'étais le contraire de Jean-Luc.
C'était pas des hippies, ouais.
Pardon, j'étais le contraire de Jean-Luc parce que j'avais une petite hostie jaune à l'époque que j'adorais.
Tout était jaune alors chez vous.
Tout est jaune, mais pas mon âme. Ah. Mmh. Et elle devait être réquisitionnée, tu te souviens, pour faire les courses à la Comédie Française. Où je dis, mais il n'en est pas question. Je voulais pas qu'on me réquisitionne mon hostie. Donc j'étais complètement à contre-courant. Pas facho, mais rebelle de l'autre côté, quoi.
1974, Nicole, vous écoutiez Frank Sinatra.
Fly me to the moon. Let me play among the stars.
Qui a repris comme d'habitude, on reste un peu dans la même lignée, hein, Frank Sinatra, Fly Me to the Moon. Ça, c'est très romantique, cette chanson. Non?
Mais moi, je suis très romantique.
On a envie de danser joue contre joue quand on entend ça.
Tellement romantique.
In other words, baby, kiss me.
Et là, vous êtes où quand vous entendez cette musique?
Vous avez vu, j'ai laissé le temps s'écouler, la chanson.
Mais t'es très fort.
Je peux faire de la radio avec vous, Nagui. Je vais faire de la radio. Alors, c'était sur un film avec un casting absolument exceptionnel, puisqu'il y avait Dirk Bogarde, Ava Gardner, Bekim Femiou, c'était les Ziganes heureux, je ne sais pas si tu te souviens, Jean-Luc. Timothy Dalton, avant qu'il fasse les James Bond, Frédéric Forrest, bref.
La trahison.
La trahison, qui est un pur navet. Ouais. Et où j'avais été recrutée pour la forme de mes oreilles. J'ai jamais rencontré le metteur en scène. Je n'ai vu que sur place. Et il engageait ses actrices ou ses acteurs sur la forme de ses oreilles. Alors, comme je jouais une tueuse palestinienne, je pense que j'avais des oreilles de palestinienne. Et je me suis retrouvée avec le rôle, avec un flingue, un Gisne 9V9, je me souviens. J'ai pris des cours de tir et je suis devenue très proche de Dirk Bogarde. Mais l'histoire de Sinatra, c'est que dans notre loge de maquillage tous les matins en Autriche, loge que je partageais avec Ava Gardner, elle avait repéré que j'avais un petit transistor, je ne sais plus comment ça s'appelait.
Mini-cassette.
Oui, mini-cassette. Et je mettais Sinatra. Et je la regarde et elle était en larmes. Je ne l'avais pas fait exprès. Et la maquilleuse a dû prendre 3 heures de plus pour la remaquiller. Et tous les jours, c'est devenu un rituel entre nous. Elle me disait, Nicole, put Frankie on, please. Alors, je mettais ça et elle pleurait. Et on savait qu'il fallait la remaquiller, mais elle attendait que je mette Sinatra tous les jours.
Joli comme histoire. Ouais, joli comme histoire. Ouais. Quant à vous, Jean-Luc, vous écoutiez Stevie Wonder. Quoi correspond cette musique? C'est simplement le plaisir de l'entendre ou il y a un moment précis de votre
mémoire?
Non, mais
je déteste les boîtes de nuit, mais fut un temps, à cette période-là, où c'était ma salle de sport, les boîtes de nuit.
Et quand il y avait des morceaux comme ça... Zumba en 70.
Non, mais je rentrais, j'étais habillé, chantais, j'étais à poil. Quoi.
La musculation.
Ouais. Et en 74...
c'était pas du tout de la recherche de meufs, c'était vraiment du plaisir du mouvement,
poil,
quoi.
Ouais.
Mais là, je t'ai vu danser, hein, tu y vas aussi, hein, tu danses bien. Hein.
C'est vrai qu'elle danse bien, ça. Ouais,
oui, mais non, parce qu'elle me fait les gros yeux. Il faut quand même savoir qu'elle bouge beaucoup. Hein.
Ouais, voilà.
Et, en 60... et même quand il n'y a pas la musique.
Et, voilà. Et en 75, Jean-Luc Moreau, vous montez une pièce.
Je monte qui ?
Une pièce. Ouais. Une pièce. Alors attendez, c'est Viens chez moi, j'habite chez une copine.
Oui, Viens chez moi, j'habite chez une copine. Oui. Bon. Il se trouve que Luis Rego, qui était l'auteur, est portugais, il n'avait pas ses papiers. Et le directeur du théâtre qui voulait monter à la pièce me dit toi, il semble que tu aimes faire de la mise en scène, tu veux le faire ? Alors je dis oui, je suis d'accord, mais on n'a pas d'argent. On va aller voir Coluche. Alors Coluche, on va le voir, on dit on n'a pas d'argent pour monter la pièce. Il pense au chéquier, mais les petits gars, vous avez besoin de combien ? 10 000 balles, on a besoin. Alors il fait un chèque, allez, vous me le rendrez quand vous pouvez. Mais comme ça, hein. Chèque sur table. Donc je prends l'argent et puis il se trouve que Viens chez moi, j'ai habité une copine, c'était une déferlante. On l'a joué 1000 fois, je crois. C'est devenu une comédie musicale aux États-Unis, un film.
En 81,
ça a été mon premier. Ce qui fait que ça m'a créé d'ailleurs un malentendu. Alors la première chose, c'est que Coluche, on l'a pu le rembourser, je crois, au bout d'un mois et demi, oui. Tellement ça marchait. Donc ça, c'était merveilleux. Et y avait son ami Bouboule qui était en distribution aussi, qui était un type génial. Et le malentendu a été que j'ai été spécialisé dans les comédies, alors que moi, profondément, ce que j'aime, c'est le drame. Voilà.
Vous a étiqueté
Encore aujourd'hui ?
Encore aujourd'hui, j'adore les pièces dramatiques et j'ai monté 140 pièces comiques.
Mais est-ce que les pièces, vous les choisissez aussi un
peu ? Non, je suis un mercenaire.
Ok,
une famille, hein.
On vous demande. J'ai déjà un rire, monsieur. On vous demande de mettre en scène une comédie. Vous acceptez ?
Non, pas systématiquement. Non. Mais en plus, j'ai eu la chance de rencontrer des grands auteurs. Et je citais Éric Assous, qui est pour moi le premier auteur français. Il se trouve que j'ai monté 14 pièces.
Alors contemporain.
Et c'est pas fini. Je l'adore. J'ai une passion pour cet auteur. Et là, on est dans du théâtre. Je dirais le théâtre moderne, contemporain. C'est pas spécialement du théâtre de boulevard. Mais disons que Viens chez moi, j'habite chez une copine. Ça m'a quand même, c'était une passerelle qui m'a ouvert sur toutes les pièces de Maria Pacôme. J'ai monté toutes les pièces de Maria Pacôme. J'ai monté les pièces avec Annie Girardot, qui étaient des pièces amusantes.
Il a un côté extrêmement sensible, Jean-Luc. Un jour, j'ai été le voir jouer son Voltaire, je crois, c'est ça. Et je lui ai dit, là, il y a un tournant et tu reviens à tes premières amours. Et je connais on se connaît très très bien.
Je vois.
Depuis l'âge de 16 ans. Ouais. Et je sais exactement ce à quoi il fait allusion, dit.
Ouais,
allusion.
Sans illusion.
On a besoin de vivre, on a besoin de manger, on a besoin de nourrir ses enfants. Mais l'âme n'est pas abîmée. On n'est pas abîmé si on fait des choses dont on n'a pas forcément envie en priorité. Et donc maintenant, il a ses deux cordes à son arc. La comédie et la comédie sensible. Tu me donneras 1 euro.
Florence Lautredoux est à ce micro. Hein. Bonjour Florence, merci de venir nous rejoindre. Nous parlons de cette pièce de mensonge et une vérité au Théâtre Montparnasse avec Nicole Calfan et Jean-Luc Moreau. L'histoire de ce couple qui cherche à se surprendre, comme vous avez signé L'amour vrai et également l'inspiration, cet élan qui change nos vies. Les deux livres étant publiés chez Odile Jacob, on voulait vous demander si dans un couple, il fallait, vous la psychanalyste, il fallait se surprendre. Est-ce que c'est comme ça qu'on tient le plus longtemps dans un couple, puisque Nicole disait rêver d'avoir des couples qui tiennent plus de 27 ans.
Bon, c'est très rare. Et ensuite, j'aime pas le « il faut ». Mais je pense qu'effectivement, c'est préférable déjà de se surprendre soi-même, tout seul, histoire de pas s'ennuyer, parce que souvent, dans les phénomènes de jumelage, et vous en parlez très bien dans cette belle pièce, il y a des fusions qui font qu'à un moment donné, l'autre est en soi, on s'ennuie tous les deux ensemble, et on finit par tomber au mieux dans l'habitude, l'habituation, et au pire dans l'indifférence.
Non mais il y a quand même dans un couple, quand l'un commence une phrase et l'autre la finit, mais qu'on est au bout d'un an ou de 2 ans d'amour, on dit oh, c'est trop mignon, mais on s'entend, mais c'est exactement ce que j'allais dire, c'est dingue.
Quel comédien,
c'est bien. Et lorsque ça arrive au bout de 27 ans, t'es tellement prévisible, je savais parfaitement que t'allais dire ça.
Oui, mais parce que là, on a deux personnes très vivantes dans la, enfin surtout d'ailleurs la.
Non, ce que je veux dire, c'est que la même mécanique peut être géniale au bout de la première année et insupportable au bout de 25 ans.
Parce qu'on évolue et c'est ce que le couple, qui n'est pas une structure figée, tend à nous faire oublier, c'est qu'on évolue. Et l'idée, c'est que deux personnes aillent vers la réalisation d'elles-mêmes, chacune. Hein, notre âme est là pour ça sur Terre. Ça s'appelle l'individuation. Enfin, on avance, on est soi-même, mais on le fait ensemble en gardant des points de jonction. Et le problème, problème, c'est que, alors certaines personnes aiment bien le besoin de sécurité très important chez l'être humain. Donc la prévisibilité de l'autre qui va dire exactement ce qu'on pense donne un sentiment de contrôle, sinon jouissif, du moins très rassurant.
Homme-femme?
Les deux, alors pareil. C'est peut-être plus paradoxal, les femmes c'est plus le contrôle, les hommes c'est l'absence de surprise, mais ça aboutit à la même chose, c'est-à-dire à l'ennui. Et c'est voilà, et ce qui est intéressant dans cette pièce, c'est qu'il y en a une qui secoue le système.
Et alors garder un peu de surprise et se surprendre soi-même, comme vous le disiez, ou surprendre l'autre, ça veut dire aussi avoir une part de secret ?
Ouais, une part de secret au sens où son univers à soi, oui. Bah, de son même seul ou...
J'ai pas dit mentir, j'ai dit jardin
c'est,
secret.
Ouais, c'est continuer à garder un émerveillement face à la vie, tout seul déjà. Et c'est comme ça qu'on peut le partager à deux.
C'est ça. Tracer, moi j'appelle ça.
Donc, tracer, ouais, c'est joli.
Ne pas tout forcément raconter ou dévoiler. Dévoiler. Est-ce que il faut aussi... Pas il faut. Alors vous aimez pas le il faut. Chaque fois que je dis il faut, Florence, elle se braque.
Il serait souhaitable.
Est-ce qu'il serait souhaitable dans un contexte idéal au sein du couple d'inventer des scénarios, d'inventer des histoires, d'être...
C'est un petit théâtre, la vie de couple. Toute façon peut être théâtre. Et des rituels. Moi, j'aime beaucoup les termes de rituel. C'est quelque chose qui est propre au couple et qu'il crée et qu'il recrée sans arrêt.
Exemple,
mais pas
c'est quoi ?
Un rituel, ça peut être, je sais pas, un couple qui a la possibilité de faire, une après-midi par-ci par-là, aller se balader dans Paris à des heures indues. Ça peut être le matin de se raconter ses rêves, par exemple. Moi, je trouve ça très chouette de se raconter ses rêves le matin.
Et si on le fait tous les matins, ça devient pas chiant ?
Ah ben, ça devient une contrainte.
Mais ouais, ça devient une habitude.
Oui, mais c'est comme il y a rituel, il y a la notion
de répétition.
Après, ça dépend des tempéraments. Moi, j'avoue que je déteste les contraintes, mais certaines personnes ont besoin de cela. Mais et surtout être attentif au moment où on s'ennuie. On connaît bien ce sentiment-là. On patine, on s'ennuie, on se répète la vie, on la recommence pas. Donc à ce moment-là, on met quelque chose en place pour changer le système.
Nicole Calfon, vous vouliez dire ?
Oui, je voulais dire que le roi des surprises que j'ai connues dans ma vie, et quelle chance, c'est Jean-Yann. Qui fêtait Noël le 14 juillet.
J'adore.
C'est-à-dire que moi, je rentrais de la Comédie Française, on avait rendu hommage... je sais pas, il y avait une fête pour le 14 juillet, on était là, tous présents... Je rentrais à la maison, il y avait un arbre de Noël au milieu du salon.
J'adore.
Bon, j'ai connu que des choses comme ça.
Mais ça peut être chiant, ça, à la longue, non ?
Non.
Ah non.
Non, je me pose la question.
Si t'aimes pas les résineux,
Je me disais, Nicole, est-ce que ça peut être chiant aussi ?
Ah mais non, parce que c'était jamais pareil. Jamais les mêmes périodes, jamais les mêmes choses.
Non, mais on peut avoir envie de Noël le 24, quoi.
Ah, mais il le faisait aussi.
C'est son côté psychorigide.
Oui, psychorigide. Non, mais il le faisait aussi, mais je trouve que... Arriver un 14 juillet et trouver un arbre qui clignote dans son salon avec plein de cadeaux au pied du... Vous allez dire que je suis vénale, pas du tout, mais au pied du sapin.
La surprise est optimale, c'est sûr.
Voilà,
la fantaisie.
Et un vélo d'enfant.
Mais Jean-Yann, pardon, c'était exactement ça, quoi.
Voilà, mais c'est pour répondre à ce que vous disiez, donc ça m'a interpellée, bien sûr.
Oui, parce qu'il était créatif vis-à-vis de lui-même, déjà.
Et que pensez-vous de ce jeu de mensonge et une vérité au sein du couple ? Est-ce que, d'abord, on donnerait ce conseil-là à d'autres couples, ou
surtout pas ? Il est très spécifique, elle s'amuse. Il le prend gravement, lui. C'est dramatique, il est dans le registre dramatique. Mais elle a tenté, elle était sur la ligne. Moi, j'aime bien les personnes qui, par moments, se mettent sur la ligne, quoi. On est vraiment... ça passe ou ça casse. Et c'est une prise de risque. Donc je trouve que c'est très bien, parce que de toute façon, enquisté comme était l'habituation chez son mari, il fallait vraiment le secouer, quoi. C'est un gros éveil.
Merci Laurence Lautredou d'être venue à ce micro. Je rappelle que vous avez signé L'inspiration, cet élan qui change nos vies, ou encore L'amour vrai, tous deux chez Odile Jacob. Portez-vous bien, à bientôt. Tanguy Pastureau, bonjour Tanguy.
Bonjour Nagui.
Ça va beau gosse ?
Mais oui, et vous ?
Hier, je sais pas, il est allé chez le coiffeur. Vous avez regardé le JT de Jean-Pierre Pernaut ?
Oui, j'ai ainsi appris que le col du Pas de la Case en Andorre est fermé jusqu'en juin à cause d'un éboulement. Les gens doivent faire un détour qui leur prend 2 heures au lieu de 20 minutes. Les pierres là-bas, c'est l'équivalent d'Anne Hidalgo pour nous. Alors j'ai aussi appris que le prix de l'essence flambe à nouveau. Ça, c'est pas bon pour le climat social du pays.
On en reparle après les infos de midi. Yo ! La bande originale avec Léla Kadobouzadi, Agnès Surcel, Daniel Morin,
bonjour Nagui,
Albert Algou, Tanguy Pastureau,
bonjour,
et nos invités Nicole Calfon et Jean-Luc Moreau.
Bravo.
Au théâtre du Montparnasse avec Stéphane Vojkovic également et également Nicolas Moreau, Nel Darmouni et Tristan Robin. Tout cela signé par Nicolas Poiré et Sébastien Blanc, mise en scène par vous, Jean-Luc Moreau. D'ailleurs, quand vous avez, pardon de cette impolitesse Nicole, mais je voulais savoir, lorsque vous avez découvert cette patte, cette plume, comme vous disiez, la plume Poiré, avec tout le respect que l'on doit à Sébastien Blanc également, qu'est-ce qui vous a frappé en tant que metteur en scène quand vous avez lu le texte en le recevant?
D'abord, ce qui m'a frappé, c'est que deux garçons arrivent à écrire une pièce, parce que généralement on a un auteur, femme ou homme, mais de se mettre en...
Le prénom, c'était deux garçons aussi qui s'étaient mis ensemble, non, il me semble.
Le prénom, c'est deux garçons.
Je crois, deux garçons.
Et puis on a Barry et Grady.
Mais c'est vrai.
Mais enfin, c'est quand même assez rare.
On a Zadig et Voltaire aussi.
Non,
c'est une danse.
Voilà.
C'est pas grave. La guerre des Michards.
J'ai essayé.
Je vais comment s'appeler un Lévy.
Jacques
mais non,
Michel.
Mais non, mais l'homme politique avait dit ça.
Porte-plainte.
Ah oui.
Mais bien sûr, c'était Frédéric Lefebvre.
Lefebvre.
C'était un hommage à ce monsieur.
Ah oui, oui.
Je restais sur Ridicule Précieuse, moi.
Qui avait... D'accord, ok. Donc, vous étiez surpris.
Non, alors j'ai d'abord été séduit par le fait que ce soit deux garçons et que je me posais la question justement de savoir comment on pouvait écrire des répliques à deux et ça m'a surpris. Et,
mais lorsqu'on
ça
lit,
m'intéressait.
Lorsqu'on lit un texte, lorsqu'on est metteur en scène, est-ce qu'on voit tout de suite la dimension, la portée humoristique de la pièce que l'on peut
non,
y apporter dans la mise en scène?
Moi, je vois rien du tout.
Tu les lis, alors.
Bah oui, vous savez lire des pièces, quand même.
Non, franchement, je ne crois pas savoir lire les pièces. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que mon imagination
le modeste,
cabale...
Vous faites le modeste, là, quand vous dites...
Non, vous allez voir. C'est peut-être très prétentieux, ce que je vais dire, au contraire. C'est que, quand je lis une pièce, mon imagination cabale tellement... que je vois autre chose que la pièce que j'ai lue.
Ah oui, c'est prétentieux.
Et bah oui, c'est prétentieux.
Mais non.
Et des fois, on me dit, mais sa pièce que tu viens de dire, elle n'est pas bonne du tout. Et je dis, mais si, elle est très bonne. Et je me rends compte que c'est mon imagination qui a travaillé, plus que la réalité de la
pièce.
Alors,
qu'apporte un metteur en scène au texte qu'il lit? Il peut pas modifier non plus les effets, il peut les souligner, il peut...
Le metteur en scène, c'est un passeur. Hein, et c'est lui qui arrive à trouver les images, à donner les codes pour les comédiens de façon à ce que le public qui est en face comprenne ce qu'a voulu l'auteur. C'est rien d'autre que ça, metteur en scène. Normalement, c'est assez compliqué à faire.
Bon.
Et quand on est devant justement une pièce comme celle de Sébastien Blanc et de Nicolas Poiré, ce qui m'avait frappé tout de suite, c'était que justement je sentais que derrière ces deux auteurs, il y avait une petite inspiration, un petit trait de génie qui était Jean Poiré, qui était le papa de Nicolas Poiré. Et on ne sait pas pourquoi Nicolas a hérité un petit peu de ce talent et il a su le partager avec Sébastien Blanc, son co-auteur.
Comment le définir, ce sens de l'humour qu'il y a dans cette pièce? Parce qu'on n'est pas dans l'absurde, on n'est pas dans le...
Le sens de l'humour, c'est que Poiré, il partait de n'importe quel objet ou n'importe quelle situation et il montait son délire. Il racontait l'histoire du monde à propos d'un portable, à propos de la plaque minéralogique d'une voiture ou d'un œuf. Hein, et il s'emballait et dans la pièce, moi j'ai des moments où je m'emballe d'une manière très très...
Notamment sur la tête de poulpe, ce monologue est extrêmement drôle.
Oui, et bon, ça c'est typiquement ce qu'aurait fait Jean Poiré. Et donc c'est très curieux.
Sans dévoiler le monologue, c'est simplement quelqu'un qui... Enfin, vous traitez quelqu'un de tête de poulpe et après devant une personne concernée, vous êtes obligé d'expliquer que c'est pas du tout une insulte et que c'est un compliment. Et là, c'est à pleurer de rire.
Ouais,
c'est à pleurer de rire.
C'est ce qui m'a le plus surpris quand
vous avez
lu
la pièce. Voilà. On va continuer d'en parler de cette pièce avec Nicole Calfon et vous, Jean-Luc Moreau. Ça sera tout de suite après Tanguy Pastureau. Tanguy, on a la chance tous ici de vivre des vies passionnantes.
Ah oui, vous notamment Nagui, hein, vous revenez de vacances, vous êtes tout bronzé. Jamais un homme n'a autant ressemblé à un toast de la marque Chris Prolls. Daniel Morin, n'en parlons pas, à ce niveau-là c'est même plus du bronzage, c'est le concours international du mélanome malin. Avec autant de soleil, dans 2 ans il sera aussi fripé que le sexe d'Iggy Pop, mais étendu à l'ensemble du corps. Si bien que des groupies excités viendront lui illustrer la tête avec 2 doigts. France Inter vient d'intégrer Morin dans ses quotas de minorité visible. Hein, ici les blancs deviennent noirs, c'est l'intégration version vue par Gérard Majax, ou Éric Antoine pour les plus jeunes, ou Raphaël Glucksmann, c'est un magicien de gauche qui arrive à faire disparaître son électorat. Vous êtes beau, y compris Leïla qui est naturellement rayonnante. Oui, bon, je sais parler aux femmes, mais passons à autre chose. Car dans cette équipe de sosies de la compagnie créole, qui n'ont pas à faire de blackface pour ressembler à Joël Ursule, et il y en a qui ne kiffent pas autant que les autres. Albert Algou d'abord, qui en met aussi blanc qu'Amélie Nothon si elle avait passé 4 ans dans une cave jamais ouverte, donc pas celle de Benoît Poulvorde. Et moi, le raté qui traîne ses névroses dans un monde de winners, même à Punta Cana, je serais roulé en boule en train de sucer des Xanax. Les gens de l'hôtel club des deux prostituées mineures, pensant que je suis un ballon, serviraient de moi pour leur partie de waterpolo. Donc Algou, moi-même, Agnès Hurstel qui n'a pas l'air en forme non plus, hein, moi, Hamster Kiki avait la même tête avant de crever. Et les gens du public, qui par essence sont déprimants puisque ce sont des anonymes, eh bien, que font-ils après l'émission? Eh ben, ils rentrent chez eux et regardent le journal de Jean-Pierre Pernaut. Le seul JT qui ne nous gonfle pas avec le conflit israélo-palestinien comme ces gros lourds du journal d'Arte, mais ose un papier de 3 minutes 40 sur la saison des radis. Et hier, alors qu'aveuglé par les projecteurs de la télé, Nagui, vous kiffiez votre ensemble vide, je dis ça parce que je ne crois pas aux races, moi, je regardais Pernaut. C'est ainsi que j'ai appris, aussi stupéfait que Neymar quand à la fin d'un match il ne s'est pas blessé, que le prix de l'essence n'avait pas été si haut depuis 2013. Le prix du baril flambe. Et même si on stockait l'essence dans autre chose que des barils, hein, des gourdes en pot de chèvre par exemple, il y en a de très belles en Haute-Savoie, et eh ben ce serait pareil. Faire le plein est devenu un truc de riche. Moi je suis allé hier à la station service, j'ai croisé la fille Bettencourt. Elle discutait avec Bernard Arnault et Nasser Al-Khelaifi, le boss du PSG. Alors je n'ai saisi que quelques noms de pays. Suisse, Luxembourg, Île Caïman. Je crois qu'ils étaient en train de parler de l'Eurovision. 13h07 hier, Pernaut lance un reportage sur le prix de l'essence. À la campagne, là où on n'a pas d'autre choix que d'utiliser sa bagnole. Autant les Parisiens qu'ils font, on peut le dire, sont des merdes. Autant que la banlieue de Montmartre sans voiture, c'est aussi hostile que l'Amazonie sans coupe-coupe. Et là, un retraité explique qu'il prend sa voiture chaque jour pour aller acheter sa baguette 8 km. La campagne française, c'est devenu le seul désert sans chameau. Et il dit, j'ai calculé, ça fait 2800 km par an. Alors, j'ai refait le calcul, parce que j'ai que ça à foutre. En réalité, ça fait 2920. C'est-à-dire qu'il y a 15 jours par an où il n'achète pas de pain. Hein, il ne dit pas ce qu'il fait à la place. Du bondage, peut-être, ou du macramé. Hein, c'est comme le bondage, mais avec des pots de fleurs.
Oui, alors, pour résumer, la baguette de ce monsieur lui revient donc très cher.
Ben oui, le prix du pain plus celui de l'essence, le type est ruiné. Mais il n'a qu'à rouler à vélo et être gluten-free. Ça va, on fait comment, nous, à France Inter, hein, alors, 13h08. Retour à Pernaut qui demande à un spécialiste, Mesdames Boudiou, comment ça se fait-il que le baril y soit plus haut que les oreilles à la mère Carambeux, foutre Dieu de ma sœur. L'autre répond, les taxes, Jean-Pierre. Et il compare avec les autres pays d'Europe, on a les plus grosses. C'est un truc typiquement français, ça nous permet de nous vanter. Pernaut conclut en disant, eh ben voilà. Et il ajoute, c'est déjà à cause du prix de l'essence que la crise des gilets jaunes avait commencé. Et là, c'est dangereux. Il est en train de refoutre le feu à la France. Il va nous réveiller, Jacqueline Moureau. Hein, mais Pernaut, c'est l'ensemble du groupe Rage Against the Machine à lui tout seul. Parce que les gens de la ruralité, qui galèrent avec des pays de misère et les deux tiers partent dans la voiture, comment dire? Vous voyez un pétard mammouth posé sur un barbecue géré par un pyromane bipolaire? Bon, bah, c'est une belle métaphore de la situation sociale du pays. Donc là, 13h14, Jean-Pierre Pernaut réalise qu'il a été anxiogène. Hein, même un épisode de Rex où le Klebs passe sous un 38 tonnes parce qu'il poursuivait un chat, ce serait plus fun. Et il enchaîne, heureusement, sur le concours du plus beau marché de France. Alors l'an dernier, Sanary-sur-Mer l'avait emporté. À Royan, qui était deuxième, ça avait été vécu comme une humiliation. Un maraîcher avait tenté de se suicider en mangeant tous ses choux de Bruxelles. Raté, il avait juste eu des problèmes gastriques. Et le concours 2019, a annoncé Pernaut hier, a déjà recueilli 800 000 votes. Boum. C'est-à-dire que les marchés génèrent plus de passion que les européennes. Hein, vous mettez Nathalie Loiseau au sommet d'une pile de tomates avec du persil dans le nez, comme les cochons dans les méchouis, elle fait 70% le dimanche du scrutin. Bref, tout ça pour vous dire qu'en 16 minutes de Pernaut, j'ai beaucoup appris sur l'état de la France, ce pays en train d'imploser qui ne tient que parce qu'il y a le concours du plus beau marché. Et ils sont beaux nos marchés. Hier, Jean-Pierre m'a fait du bien. J'aurais jamais pensé prononcer un jour ce type de phrase.
Merci.
Bande originale, Nagui sur France Inter.
Nous parlons donc de ces deux mensonges et une vérité au Théâtre Montparnasse avec Nicole Calfan, également Nel Darmouni, Tristan Robin, Nicolas Moreau, Stéphane Wojtkowicz. Nicolas Moreau étant votre fils?
Pas du tout. Moreau, c'est le nom, il y a Durand, Dupont et Moreau. Hein. On est quelques millions hein, de Moreau. Non, donc... non. Ma fille, Esther Moreau, a joué dans la précédente version.
C'est pour ça que je posais la question. Mais comme il y a ce côté... est-ce que je suis le père? Est-ce que je suis la fille?
Oui, on va avoir des conflits. Non, mais non, pas du tout.
D'accord. Et donc vous, Jean-Luc Moreau, avec Nicole Calfan, vous portez cette pièce de Mensonge et une vérité. Encore une fois, je le redis pour ceux qui n'étaient pas là en début d'émission, l'idée est un couple qui fête ses 27 ans de mariage. Chacun fait un cadeau à l'autre pour le surprendre, parce que c'est vrai que la base d'un cadeau, c'est qu'il est emballé, qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Or, là, chacun sait exactement ce que l'autre attendait. Et de là, c'est le nirvana pour Philippe, pour le mari dans le couple, en disant, mais on a atteint ce que l'on devait atteindre, notre rêve. Mm-hmm. On n'est plus qu'un. On sait exactement ce que l'autre fait. Et puis, alors, Catherine, elle, c'est le désespoir le plus total. On ne peut plus se surprendre. De là arrive le jeu proposé par le mari dans un premier temps. Donne-moi deux mensonges et une vérité, je te dirai quelle est la vérité et quels sont les mensonges. Il gagne pratiquement tout de suite, sauf que toute la pièce sera cette énigme. Va-t-il ou non résoudre? Et Leïla, tu as raison de préciser tout à l'heure, il n'a qu'une possibilité, oui, qu'une réponse à faire. Sinon, il ne saura jamais quelle était la vérité, quels étaient les mensonges des trois propositions faites par Nicole Calfan. Nicole, vous jouez avec le metteur en scène tout à l'heure. Il nous disait que Louis Seignier lui glissait des indications sur scène. Est-ce que c'est le cas de Jean-Luc Moreau de temps en temps? Il vous parle, il vous... Du regard, il vous fait comprendre des choses.
Du regard, on se comprend, un petit clin d'œil, et ça va pas au-delà, parce que je fais souvent le compliment, je lui dis que on n'a pas un œil de metteur en scène sur scène avec lui, on a l'œil de son partenaire. On oublie complètement qu'il nous a mis en scène. Bien sûr, on veut lui plaire, on veut être la meilleure possible, on veut s'appliquer, on veut être dans les bonnes places, avoir les bonnes intonations. Mais on sent qu'on n'est pas jugé, on a des notes après... Tous les soirs, c'est normal.
Des notes?
Oui, des notes.
Sur quoi? Attention, sur 10, sur 20, sur... Non, d'accord, des petits mots doux.
Des briefs.
Pratiquement tous les metteurs en scène.
J'aime bien l'idée de la petite note, Jean-Luc, de dire, aujourd'hui, tu as 16,5 sur 20.
Non, elles ne sont pas quantifiées.
D'accord. Donc des commentaires et des conseils. Parce qu'il y a toujours quelque chose à changer?
Toujours.
Parce que ce qu'il y a de très bizarre quand on joue la comédie, c'est que on a plusieurs disques durs qui fonctionnent en même temps. On a le disque dur du rôle, et puis moi j'ai le disque dur du metteur en scène. Et forcément, il tourne en même temps. Et même pour moi d'ailleurs.
Oui, parce que qui vous regarde?
Oui. Oui, je me regarde aussi. Ouais. Alors après, je reprends le texte, je reprends la brochure papier que je feuillette, et d'un seul coup, en feuilletant, le disque dur se met en place et me donne des informations qui ont été enregistrées à mon insu. Et après, ça me permet de dire aux acteurs, attention, là, il faut faire ça, attention, là, moi-même.
Est-ce que les auteurs, puisque ce sont des auteurs contemporains, viennent, assistent, donnent des conseils, des recommandations? Est-ce que le texte a évolué, a changé, d'ailleurs, depuis qu'il est joué?
Quand j'ai fait la première mise en scène, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Ils ont été, d'ailleurs, absolument merveilleux, parce qu'ils ont été très, très, très ouverts. Maintenant, le texte est bloqué et on essaie de le dire. Mais là où ils sont...
On essaie de le dire. Vous voulez même plus le jouer maintenant, vous essayez de le dire.
Non, la première représentation, moi j'étais un petit peu dans les choux, tendu. J'étais pas complètement prêt, et j'avoue que j'ai un petit peu saboté le travail. Et ils ont été très gentils avec moi. Non, maintenant
ils sont... Faut préciser que ça s'est monté assez vite aussi, la reprise.
Vite, ouais. Ouais. Mais maintenant, leur position est d'être heureux. Ils ont deux troupes qui jouent leur pièce. Ouais. C'est un bonheur total, ils sont jeunes, ils sont en train d'écrire, ils ont l'avenir devant eux, ils sont heureux, et franchement, ils ne nous emmerdent pas, ils viennent, et ils sont chaleureux.
Ils sont délicieux.
Plaisir que vous partagez également, Nicole, oui, sur scène.
Ah oui, oui, moi, je pense que le nerf de la guerre sur scène, pour avoir envie d'aller jouer, c'est de bien s'entendre avec ses partenaires, et avec son metteur en scène. Moi, sinon, j'y vais plus. J'ai trop souffert au théâtre.
J'y vais plus, ça veut dire que vous l'avez vécu, donc?
Bien sûr, j'ai enchaîné avec... droiture, j'ai trop souffert au théâtre. Donc là, quand on se retrouve, on est heureux, c'est sain, on rigole, on est complice, c'est bienveillant. Et c'est déjà pour moi une grande partie de gagner sur un succès. Parce que si on va en reculant sur scène, au théâtre, c'est tellement dur. Moi, je dis toujours, on rentre pas sur scène comme on rentre dans un bistrot. Je me souviens de Pierre Mondy, qu'on a tant aimé tous les deux, qui avait besoin de son petit verre de rouge. avant d'entrer sur scène, chacun a ses rituels, d'autres n'en ont pas. Mais je pense que moi, le mien de rituel, c'était de conforter. Et plus je suis confortée, mieux je peux être. Voilà.
Ça s'appelle deux mensonges et une vérité. Lui, il rentre dans ce studio comme dans un bistrot. Il a besoin d'un litre de rouge pour être en forme. Voici Daniel Morin.
Ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, la vie de couple, la vie de couple. Quel enchantement quotidien, quelle joie sans cesse renouvelée, quel sentiment merveilleux de plénitude. Ah, oh, quel ennui. Alors souvent ça commence bien avec le coup de foudre. Le coup de foudre qui peut te prendre n'importe où, dans une soirée quand elle regarde la foule d'un air inquiet, dans une cave quand elle cherche la sortie, dans les coulisses de Taratata quand elle cherche ses habits, ou encore dans un parking de supermarché quand elle range son caddie. Les regards se croisent, se bloquent et c'est parti. On a le souffle court, on a la bouche sèche, on a les mains moites, les jambes qui flageolent, les fesses qui tremblent, le nez qui coule. Personne n'ose prendre la parole en premier de peur de commettre un impair. On a des bouffées de chaleur, puis on se lance en disant quelque chose de brillant et de malin à la fois, genre « Salut, j'adore la façon dont vous poussez votre caddie ». Alors bien sûr, parti sur des bases aussi foudroyantes, le couple s'épanouit, on est heureux, on vit d'amour et de mojito, on vit les yeux dans les yeux. L'existence n'est plus qu'un grand rendez-vous sensuel où on passe le plus clair de son temps à moitié nu, à se grapper dessus comme des animateurs télé. On fait l'amour dans la cuisine sous le regard angoissé des raviolis qui mijotent. On fait l'amour par terre dans le couloir tout en essayant d'éviter l'aspirateur de la femme de ménage. On fait l'amour devant la télé, devant Motus et Thierry Beccaro qui l'année prochaine va tant nous manquer. Puis la sensualité laisse place à la tendresse. On est content d'être ensemble mais le corps n'y est plus. On parle de projets futurs, mais on vit déjà dans une dimension colocataire. Je crois que je vais me faire un atelier dans le garage. Ça va m'occuper, un atelier. C'est bien, un atelier, c'est bien et c'est pratique. Tu peux t'isoler, puis tu peux réparer des trucs en même temps. J'aime bien notre vie, mon amour, mais avec un atelier, ce sera encore mieux. Bon, et puis bien sûr, de la tendresse à l'ennui, il n'y a qu'un pas. Pas qu'on franchisse sans s'en apercevoir, parfois. Et puis un jour, c'est la révélation. Mais t'es pas là. Dis donc, je pensais à un truc, là. Trouve pas qu'on se fait chier? Ouais, t'es d'accord, on s'emmerde, hein. Ça fait combien de temps, toi? Ah oui, quand même, depuis le début, oui. Ah moi, je sais pas exactement, mais ça me prend la gorge aujourd'hui. Alors, le plus fort dans cette affaire, c'est que tout le monde connaît l'histoire, mais personne ne peut s'empêcher de la reproduire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire par la suite? Bah oui, pourquoi pas le jeu des histoires, histoire de pimenter la relation en fin de parcours, le jeu de deux mensonges et une vérité, si vous voulez. Ouais.
Chérie, devine ce qui est vrai, alors. Petit A, j'ai fait de la prison. Petit 2, j'ai tué ta mère. Petit 3, j'ai couché avec Nagui.
Mon amour, j'espère que c'est la prison, sinon c'est horrible! Qui sait, ça peut relancer le couple, même avec des propositions aussi horribles. Enfin, horrible, horrible, il y a pire, hein. Ça pourrait être. Chérie, j'ai couché avec ma mère dans une prison, regardant Nagui à la télé. Mais bon, on n'est pas là pour parler de moi. À demain.
France Inter, la bande originale, avec Nagui.
Nicole Calfan et Jean-Luc Moreau, Théâtre Montparnasse, deux mensonges et une vérité. Cette pièce que vous allez jouer, vous savez déjà,
jusqu'au 14 juillet.
14 juillet, très bien.
Bon, pour Noël, quoi.
On parlait du sapin.
Pas d'Avignon cette année.
Pas d'Avignon, très Nicole.
Nicole a plein d'autres projets. D'abord, vous venez de tourner le premier long métrage d'Adrien Piquet-Gauthier qui s'appelle Boutchou.
Mm-hmm.
C'est ça? Vous y faites quel personnage?
Avec Carole Bouquet, oui.
Il y a Carole Bouquet, Gérard Darmon, et Stéphie Selma.
Ouais.
Et qui êtes-vous dans ce film?
Je sais pas vraiment.
Mais vous l'avez déjà tourné ou pas?
Non, oui, je l'ai déjà tourné, justement. Je vous dis, je ne sais pas vraiment.
Ok, très bien.
Non, je plaisante. Je joue la directrice d'une école. Enfin bon, voilà.
Ok, vous avez joué dans une comédie également dirigée par Xavier Duringer avec Didier Bourdon et Pef. Philippe Duquesne également, ou Frédéric Bell, s'appelle Human, je sais pas si on pense comme ça.
Ouais, ça c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est un couple qui s'ennuie aussi d'ailleurs, et qui va engager un human, qui va faire tous les travaux dans la maison, élever les enfants, leur faire faire les devoirs, qui est tenu par Edmois, par
Pef,
voilà, et... avec Didier Bourdon, etc. Et on s'est beaucoup amusé.
Vous êtes la maman de Valérie Carcenti.
Exactement, on s'est beaucoup amusé, c'était comme une troupe.
Et alors, côté roman, est-ce que vous vous êtes remis à écrire ou pas?
Mais oui, mais j'arrive pas à faire éditer mon dernier roman, le 14e, que Jean-Luc a lu.
Mais pourquoi?
Je sais pas, je me fais un peu jeter des maisons d'édition. On va faire un appel d'offres.
Quel est le thème du roman? Ou son titre, je sais pas. C'est
une vie avec un pervers narcissique.
Ça devrait trouver de l'écho, pourtant.
Ça pourrait trouver des échos chez certaines femmes. C'est un livre très intime, c'est un cri. Pas facile, mais bon, je pense que on va trouver.
On vous souhaite en tout cas.
Je dis le titre parce qu'il est beau.
Je vous en prie.
Le goût du baiser.
Ah, c'est encore un rapport avec Claude François, est-ce que vous avez dit tout à l'heure ou pas?
Pas du tout.
Pas du tout. Très bien. Jean-Luc Moreau, vous mettez donc en scène De mensonges et une vérité en plus de jouer cette pièce. Vous avez mis également en scène La Moustache, qui se joue toujours au Splendide.
Au Splendide, oui.
Là aussi, c'était avec une nouvelle distribution.
Oui, parce que oui, c'est une nouvelle distribution. Parce que
moi, j'avais vu à la Gaîté, c'est ça.
Voilà. Voilà. Maintenant, c'est avec Arnaud Gidouin, avec Joy Esther. Et
Daniel Jean Coloredo, Fabrice Domio, ouais. Sacha Judasio,
Judasco,
en alternance avec Mathieu Burnel, c'est voilà. Ça. Et alors, quels sont vos projets pour soit les festivals de théâtre cet été, soit la rentrée?
Alors, à la rentrée, je vais jouer une pièce de Éric Assous, encore, qui s'appelle Inavouable, que je vais jouer avec Véronique Jeannot. Et ensuite, je vais sans doute jouer...
Vous savez déjà dans quel théâtre, pardon?
Non. On ne sait pas, ok, mais on...
Il est dans une trompe déjà.
Septembre.
Ah, Véronique Jeannot, ça va, soyez pas vexés.
Tout est dangereux.
Septembre, décembre, on est en tournée.
D'accord.
Ensuite, je vais monter une pièce qui s'appelle, de Éric Assous, qui s'appelle Les Guêpes. Et ensuite, je vais monter une troisième pièce qui s'appelle Les Cabots, que je pense jouer avec Nils Arestrup.
Très bien.
En 2021.
Du pain sur la planche. En attendant, donc, jusqu'au 14 juillet au théâtre du Montparnasse, deux mensonges et une vérité et des excuses à présenter.
Bien entendu, et désolé déjà pour le 7e art dans son ensemble, qui a été malmené, violenté, voire tambouriné par Leïla Kadour Boudadi et le désormais film culte 35 de l'après-midi. Mais si, vous savez, c'est le film avec Bénédicte Dalle et Jean-Louis Anglade, enfin, les enfants. Désolé pour tous les historiens spécialistes de la période mai 68 qui ont découvert ce matin une analyse nouvelle, différente de ces périodes. Différentes, mais pointues, signé Jean-Luc Moreau.
On a beaucoup niqué. Hein.
Ouais, et encore à l'époque, Léliane dansait pas. Désolé pour les puristes de théâtre classique ce matin, ils ont sûrement eu un choc en comprenant qu'à la rentrée, il y allait sûrement avoir sur scène un Molière mis en scène par Jackie et Michel dont la vedette est Nagui. Petit extrait.
Et alors, elles sont ridicules, les précieuses.
Ouais, oui, on parle de la comédie française, les amis. Hein.
Quelle honte. Quelle honte. Merci Nicole Galfond, merci Jean-Luc Moreau, portez-vous bien. Demain, c'est la vérité, c'est très drôle. Au théâtre du Montparnasse. Demain, Bruno Solo sera donc à ce micro pour nous parler d'une fiction qui sera demain soir d'ailleurs sur France 2 et qui est très émouvante et qui est autour du déni de grossesse. Pour l'instant, ce sont les carnets de campagne avec Philippe Bertrand. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour les amis. Je suis un peu le Pernod de France Inter, comme dirait Tanguy.
Non, tu
nous allons dans un magnifique village, l'Ardèche, rencontrer le dernier sabotier du département.
Ah, c'est bien côté Pernod.
Non,
c'est mieux que
pas vrai.
Ah, dommage.
Non,
je sais bien que c'est pas.
Oh, dommage. Et je remarque une chose.
Dis-moi.
Bienvenue au club des Bourguignons célèbres. Donc Jean-Luc Moreau est né à Nevers.
Absolument, oui.
Ouais, ça. Voilà. Et je suis fier d'être Bourguignon. Voilà, c'est tout ce que je veux dire.
Très bien.
C'est gentil, moi aussi.
Bah, tant mieux.
Manicourt, c'est toujours un circuit qui fonctionne ou pas?
Oui, bien sûr.
Non, mais je sais pas, parce que les Grands Prix de Formule 1 ont déménagé.
Oui, il y a autre chose.
Oui, j'entends.
Il n'y a pas que la Formule 1.
J'ai
la Formule 2, il y a la Formule 3.
C'est tout faire.
Nouvelle invitation.
Il est 12h31, Philippe, dépêchons-nous.
Tout à l'heure. Non, à demain.
À demain.